Pour clôturer cette nouvelle semaine de diffusion de l'heure du documentaire consacrée à nos amis les bêtes, voici l'occasion de réentendre une histoire particulière. Son sort avait ému le monde entier, son courage unanimement salué sur les réseaux sociaux, notamment via le hashtag « Je suis chien », partagé en masse sur Twitter. Diesel, ce chien du raid, le premier à mourir en intervention, était tombé sous les balles le 18 novembre 2015 lors de l'assaut de Saint-Denis visant le coordinateur des attentats ayant visé la capitale 5 jours plus tôt. Mais qui sont ces chiens? Comment sont-ils formés? Quels liens ont-ils avec leur maître? Comment travaillent-ils? Rechercher des restes humains, des traces de sang humain ou de produits accélérateurs d'incendie criminel, tel est le travail d'une brigade d'élite de la gendarmerie hors du commun, les brigades cynophiles. Olivia Cohen et François Teste nous font partager ces relations de travail passionnelles entre hommes et chiens, travailler ensemble au péril de sa vie pour sauver celle des autres. Tous les héros ne marchent pas sur 2 jambes et la Société Centrale Canine organise pour la première fois les trophées des chiens héros. L'objectif de cet événement national est de rendre hommage aux chiens qui ont pris part à de grands exploits accomplis avec et au service de l'homme. Rendez-vous sur le site d'une histoire particulière pour retrouver toutes les modalités du règlement et le dossier de candidature via le lien vers la Société Centrale Canine. 9 trophées pour 9 catégories, parmi celles du chien civil, du chien d'intervention ou encore du chien d'assistance aux personnes handicapées. Si vous avez un chien héros parmi vos amis, c'est le moment de lui offrir un moment de gloire canin. Aujourd'hui, on se roule dans l'herbe avec Gringo, Hagen, India et Diesel.
Chien au service de l'État. Olivia Cohen, François Teste.
C'est un chien qui a été amené par son maître, qui a découvert une lésion au niveau d'un doigt sur un postérieur. Donc là, on va tondre un peu le pourtour de la plaie pour examiner au mieux la plaie. Et puis, on la traitera en conséquence dès qu'on aura un bon visuel dessus. Et après, la charge sera donnée au maître de s'occuper du soin, des soins dans les jours à venir.
Ça va, il est calme. Bon,
on peut le laisser. Ça reste, non, mais ça reste des chiens de travail, c'est nerveux. C'est pour ça qu'on les sélectionne, c'est comme ça qu'on les utilise.
Il a quel âge?
2 ans.
Il va juste falloir désinfecter la plaie.
À quelques 50 km de Brive-la-Gaillarde, Gramma, dans le Lot. Nous sommes au CNICG, Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie. Ici, 250 chiens sortent diplômés chaque année. Ça ne ressemble pas vraiment à une école, plutôt à un centre de vacances. Le terrain est en pente, le chenil tout en haut, les bureaux à l'entrée, et un immense terrain où chaque jour les chiens s'entraînent. Ces chiens, vous les connaissez. Ils patrouillent dans les gares, creusent la neige pour retrouver les victimes d'avalanches. Ils vous protègent. Ils sont au service de l'État depuis des décennies. Chaque chien a sa spécialité. La dernière en date a été mise au point peu de temps après les attentats de novembre 2015. On l'appelle Rex Pemo pour recherche d'explosifs sur personnes en mouvement. Les premiers binômes Rex Pemo, maître et chien, ont été formés en urgence et puis envoyés sur le terrain dans la foulée. Parmi eux, une des premières femmes que nous avons suivies. Colonel Dominique Dallier, vous êtes le commandant du Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie. Est-ce que vous pouvez m'en rappeler... De quand date ce centre ?
Alors, la caserne date pour les premiers bâtiments de 1815. Donc nous, effectivement, on y rentrait à partir de 1943 et officiellement à partir de 1945. Bien sûr, ce centre a évolué au fil du temps, puisque au départ, on partait sur quelques technicités, notamment la piste, le mordant, enfin des choses, des chiens de garde patrouille, des choses relativement basiques. Et puis progressivement, bien on est monté en capacité technique. Et maintenant, on pratique 16 technicités différentes.
Est-ce que vous pouvez me rappeler les technicités
Parmi les technicités, on distingue deux grandes familles, je devrais même dire trois grandes familles. Il y a le pistage, il y a la recherche et puis le mordant. Donc grosso modo, voilà les trois grands ensembles. Après, dans les pistes, on va trouver le piste simple, on va trouver le piste défense, où là on met du mordant au chien, éventuellement pour interpeller un malfaiteur. On va avoir du piste avalanche lorsqu'il s'agit de faire des secours en montagne, donc sous la neige. C'est un environnement particulier, mais c'est du travail cynophile. On va avoir du piste Saint-Hubert. Alors c'est un animal qui a des capacités olfactives supérieures à ses congénères, à peu près 5 millions de cellules olfactives supplémentaires, donc ce qui lui permet d'intervenir des fois après que d'autres chiens ont échoué et lui de trouver des éléments de piste notamment. Après, dans le domaine de la recherche, on va trouver les recherches traditionnelles comme les stupéfiants, les armes et les munitions, les explosifs. Après, on va rentrer sur des choses un peu plus, je dirais, spécialisées, comme la recherche de produits accélérateurs d'incendie, les billets de banque, et puis, bien sûr, la recherche d'explosifs sur les personnes en mouvement. On a aussi des chiens de garde-patrouille, comme je vous disais au début. On a des chiens d'intervention, qui ont un rôle particulier aussi pour rechercher des personnes en tout lieu. Voilà. Et puis les chiens d'assaut du GIGN que l'on recrute et que l'on forme en partie ici et en partie sur Paris. Et ensuite, on va trouver toutes les technicités rares comme la recherche de restes humains, de traces de sang. Voilà. Donc ça fait déjà quand même pas mal de choses, cette technicité au total. Les billets de banque aussi, quand on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Voilà un exemple type sur lequel les chiens démontrent tout à fait le contraire.
Allez, c'est parti. Donc moi je suis le chef Plutino Claire. Donc je suis âgée donc de 32 ans. Je suis maître de chien donc au sein du CNICG et particulièrement donc au groupe national d'investigation cynophile, donc le GNIC, ce qu'on appelle. Et le mieux c'est que je vous amène à mon unité, comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir ce que nous on fait particulièrement, parce qu'on a un peu une technicité particulière, je ne sais pas si on vous en a parlé.
Et c'est la technicité Rexpémo, c'est celle-là.
Voilà, vous avez effectivement le Rexpémo, mais l'essence même de notre unité à nous, c'est la recherche de restes humains. Donc du coup c'est un peu particulier. On est donc à l'effectif 6, nous avons un officier et donc 5 sous-officiers dans cette unité, et donc on a cette technicité rare, et depuis donc 2016 nous avons la technicité Rexpémo effectivement.
Donc là on entre dans un bâtiment, voilà. Qui est...
Donc là c'est le bâtiment, vous avez la partie bureau, budget, soutien, voilà, et ensuite nous on a l'étage.
Ah, vous avez donc un bureau, vous
n'avez
pas tout le temps
en antenne. Si vous voulez, on a un bureau, mais si vous pouvez le dire, on est plus au grand air que dans notre bureau. Mais il nous faut quand même un lieu pour après faire un petit peu de papier, comme tout le monde, quoi.
Mais c'est pas votre endroit préféré.
Ah non, parce que nous, on est une unité opérationnelle. Hein. Donc après, nous, par contre, on intervient sur tout le territoire national et aussi international, puisqu'on part faire des missions à l'étranger. Donc là, vous voyez, c'est par exemple la carte de France. Donc là, vous voyez en rouge, donc ce sont les missions, donc ce qu'on appelle RPAI, donc c'est la recherche de produits accélérateurs d'incendie. Donc c'est des chiens qui sont formés pour travailler sur les incendies, pour essayer de retrouver donc les causes de l'incendie, remonter aux sources. Après, vous voyez marqué Explore Expemo, donc c'est Explo, c'est donc la recherche d'explosifs traditionnels, donc ce qu'on a actuellement en France avec d'autres équipes aussi, donc la recherche traditionnelle sur bâtiments, sur des visites officielles d'autorité. Et maintenant le Rexpémo, donc qui est depuis 2016, une technicité qui a été donc introduite au sein de notre unité, plus aussi d'autres unités en France, pour la recherche d'explosifs sur personnes en mouvement. De là, on va partir justement pour le Rexpemo sur Paris, pour le mondial de hockey.
La technicité Rexpemo, c'est donc la plus récente. Qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau ? Qu'est-ce qu'elle a de nouveau ?
Alors, si vous voulez, par rapport à une recherche traditionnelle en explosifs, où on travaille essentiellement sur des véhicules, dans des bâtiments, donc des choses relativement inertes, là, on va travailler sur des personnes. Et le gros intérêt par rapport aux recherches traditionnelles, c'est que là, on va travailler sur l'actualité, c'est-à-dire les bombes humaines, donc des personnes qui sont susceptibles de se promener avec une ceinture d'explosifs et qui peuvent créer un attentat, donc travailler directement sur l'aspect terrorisme.
Alors, cette technicité, elle est apparue avant les attentats du Bataclan, mais l'actualité a accéléré le processus de développement. Comment ça s'est passé, cette temporalité ?
Alors, en fait, on avait déjà commencé à travailler sur ces questions-là. C'était à la suite des attentats qui s'étaient produits en Espagne et en Grande-Bretagne. Donc, on avait étudié, bien évidemment, ces cas de figure, et on s'était dit, il faut peut-être s'y préparer également sur notre territoire. Donc, on a commencé à réfléchir comment on pouvait travailler sur ces questions-là, et on a lancé la première expérimentation fin 2014. Alors, c'est vrai que nous avons eu la visite de monsieur Bernard Cazeneuve, qui était alors ministre de l'Intérieur, en octobre 2015, auquel nous avons présenté justement cette technicité. Il a vu évoluer les chiens. Bien évidemment, ça l'a intéressé pour les questions de sécurité que l'on connaît. Et à partir de là, il nous a donné effectivement les moyens, avec la Direction Générale de la Gendarmerie, pour pouvoir mettre en œuvre des formations de recherche d'explosifs sur personnes en mouvement.
Donc sur votre bureau, ouais, décrivez-nous un peu votre bureau. Il y a la bouteille de Contrex, le désinfectant.
Ouais,
il y a aussi les coups de poing américains.
Ouais, c'est ça. C'est des souvenirs.
Donc les photos, c'est quoi ?
Alors là, les photos, justement, c'est Hagen. Donc c'est mon chien qui est formé en recherche d'explosifs et... Et donc Rexpemo depuis l'année dernière. Ça, c'était les autres chiens de mon unité quand j'étais sur Nice. Hagen, donc c'est mon premier chien, donc qui a été formé en 2014. Et ensuite, j'ai pour la deuxième spécialité, donc la recherche de restes humains. Donc j'ai Joker, qui est aussi un berger belge malinois, qui est validé. Et j'en ai un en cours de formation, Mocha, qui est un petit springer, qui lui aussi sera pour la recherche de restes humains.
Parlez-nous un peu, enfin, on va le rencontrer à Hagen là dans quelques minutes, mais c'est quoi son pédigré, il a quel âge ?
Alors Hagen, il va avoir 5 ans le mois prochain, et c'est un berger belge malinois. C'est vraiment la recherche sur personne, c'est vraiment deux choses différentes. Parce que les techniques de dressage ne sont pas les mêmes. Sur une personne, nous, on l'a vu, quand on a mis nos chiens sur... on a mis, par exemple, donc des produits explosifs sur personne, donc des plastrons, lors de notre stage. Les chiens, naturellement, comme ils ont été formés sur les bâtiments et sur les véhicules, sur des environnements qui n'ont rien à voir avec la personne, pour eux, c'était pas... Ils prenaient, si vous voulez, détecter l'odeur des explosifs, mais ils ne se rendaient pas compte que ça pouvait venir de la personne. Moi, Hagen, au départ, il n'a jamais senti une personne. On a dû en fait expliquer aux chiens que maintenant ça pouvait aussi se trouver sur personne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a conditionné avec un harnais. On a conditionné le chien. Quand il y avait le harnais, c'était recherche sur personne. Alors que quand c'est une recherche traditionnelle, par exemple, on met pas ce harnais. Mais c'était pour vraiment un conditionnement.
On va peut-être aller voir Hagen.
Allez, on va voir Hagen. On va voir le petit Hagen. Alors, il est assez impressionnant, mais il est très gentil.
Pour moi, si vous voulez, le chien, c'est une chose, mais c'est une équipe véritablement qui travaille, parce que le travail de l'un et de l'autre est indispensable, et la cohésion entre le chien et l'homme est indispensable pour la réussite de la mission. Parce que si vous voulez, des fois, c'est le chien qui, par une désobéissance positive, va dire au maître « Attention, moi j'ai repéré quelque chose, regarde bien ce que je te montre. » Et d'autres fois, quand le maître de de chien voit que le chien se déconcentre un petit peu, il va lui dire « travaille », il va le remettre au travail et lui dire « il faut que tu te concentres, cherche ce que je t'ai demandé de chercher ». Voilà. Donc c'est vraiment un travail de couple. Et d'ailleurs, quelque part, c'est pas innocent quand le troisième jour où on fait rentrer les gens en stage, on procède à ce que l'on appelle la cérémonie de mariage. C'est-à-dire qu'en fait, le maître de chien rencontre son animal pour la première fois et ils savent tous les deux qu'ils vont faire équipe pendant 8 à 9 ans à peu près, qui est la durée de service d'une équipe cynophile.
Le mariage, c'est l'animal qui choisit ou c'est un coup de foudre mutuel ?
C'est souvent l'animal qui choisit le maître. Alors si vous voulez, c'est un peu plus compliqué que ça parce que avant que le chien ne rentre en formation... Déjà, il va y avoir une période de sélection où on va étudier tous les paramètres qui nous intéressent pour faire rentrer un animal en gendarmerie. On va vérifier notamment qu'il n'est pas agressif ou qu'il n'est pas peureux, parce que tout ça, c'est des conditions rédhibitoires pour faire rentrer un chien chez nous. Et ensuite, on va faire aussi du côté du maître une analyse du caractère. Et on va voir... À partir du débourrage qui aura été fait, c'est aussi une phase qui est avant la formation, où on commence déjà à faire travailler le chien et on voit quelles sont ses aptitudes. Et en fonction de tous ces éléments-là, de l'entretien ensuite qu'il y a entre le dresseur qui a préparé les chiens et le maître de chien qui va récupérer l'animal, on va voir si ça peut fonctionner. Voilà.
Est-ce que vous pouvez me décrire là voilà votre apparence, parce que vous savez moi je viens avec beaucoup de préjugés, j'imagine pas déjà rencontrer une femme, c'est surprenant, excusez-moi hein, les clichés sexistes, vous devez peut-être y être habitué, mais voilà, vous êtes déjà une femme et vous êtes tout à fait coquette, moi ça me surprend.
Avant tout effectivement comme vous l'avez dit, je suis une femme, donc je suis aussi une maman. Et l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Après, il ne faut pas être dans les extrêmes, je pense, tant sur le côté militaire que sur le côté féminin. C'est sûr que je ne vais pas arriver avec peut-être le même maquillage ou la même esthétique que le week-end quand je suis en mode maman ou femme. Mais après, pour moi, ce n'est pas incompatible. Après, voilà, oui, j'ai une tenue, vous voyez, je suis habillée en kaki, je porte des rangers, je suis armée... Et puis avec les chiens, vous savez, il vaut mieux être habillé, je pense, comme ça, parce que si vous voulez, ils sont assez excessifs. Ils sont débordants d'amour, nos chiens, donc ils viennent souvent se coller à nous, quoi. Et là, vous allez voir, Hagen, il ne vit que pour moi.
Bon, j'imagine que ça fait du bien.
Enfin, c'est flatteur. Oui, c'est flatteur. En plus, vous savez, vraiment le... C'est, voilà, bon après je vais parler que d'Hagen parce que Hagen il est comme ça, mais c'est vraiment un chien très proche de son maître et on a vraiment une complicité extraordinaire.
Plus forte qu'avec les deux autres, qu'avec Mocha et Joker ?
Ah non, moi j'aime les trois de la même façon parce que si vous voulez, Hagen c'est mon premier pour la recherche de produits explosifs. Et après, Joker, c'est aussi mon premier pour la recherche de restes humains. Et Mocha, c'est un petit chiot que j'ai eu à 2 mois. Et donc du coup, en fait, je les aime tous les trois. Je pense que c'est comme les enfants, hein. Vous savez, pas la différence, quoi. On aime nos petits, quoi. Bah eux, ils font partie de notre vie, et moi, en tout cas, je les aime tous de la même manière. Voilà, Hagen. Oui, oui, loulou. Bah ouais.
Oh, bah ouais, grosse patate. Ah, la grosse patate. Voilà, une boule de nerf. Vous voyez ? Oui, bon bah oui. Bah ouais, gros loulou. Donc voilà, je vous présente Hagen. Doucement, doucement, sage. Voilà. Assis. Assis, viens là. Viens. Assis, pas bouger. Donc vous pouvez vraiment le caresser. Voilà, vraiment, vraiment être... C'est un amour. Il adore les câlins. Il est vraiment bien dans sa tête. Vous avez vraiment... Il a aucune agressivité.
Alors là, Hagen, il s'est mis en position de travail, j'imagine. Ouais. C'est assis entre vos jambes. C'est toujours comme ça qu'on travaille.
Pour leur explémo, oui. Ouais. Pour leur explémo, on travaille comme ça. Et assis, pas bouger.
Alors pourquoi décrivez-nous. Là, pourquoi est-ce qu'il, par réflexe, il se met comme ça?
Là, il se met comme ça parce qu'il aime bien venir au contact de moi, déjà. Voilà. Et puis, si je ne l'ai pas ici, il va commencer à sauter comme un zébulon. Mais après, c'est vrai qu'au travail pour le Rexpémo, on les fait mettre à la scie entre nos jambes, on les conditionne et en fait, ils vont checker les personnes qui passent devant. Voilà. Hagen, viens. Assis. Couché. Pas bouger.
Et il obéit.
Eh oui, il obéit. Non, non, non. Enfin, presque, vous avez vu. Couché. Pas bouger. Tu restes. Pas bouger, tu restes. Voilà. Bon, si vous voulez les caresser, vous pouvez. Hein. Il y a des gens qui spontanément viennent caresser les chiens quand on est en mission. Couché, Hagen. Couché. Couche-toi. Ah bah ça y est, vous êtes fin copain.
Ah,
ah bah oui, là vous l'avez caressé, c'est ça y est, c'est pot de colle. Hein.
Commandant François Dulieu, vétérinaire en chef du centre.
Le chien de travail, c'est un sportif de haut niveau. Donc, ça va, effectivement, on va suivre tout ce qui pourrait poser problème sur un sportif de haut niveau. Donc, nous, ça va être tout ce qui va être articulation, ça va être tout ce qui va être cardiaque, pulmonaire, ce genre de choses qui pourraient entacher leur caractère opérationnel.
Quel type de race on sélectionne pour quel emploi ?
D'une manière générale, on va sélectionner à peu près les mêmes types de races. Donc nous, ce qu'on a, ça va être essentiellement du berger belge malinois, du terlurien un petit peu, du berger allemand un peu, du springer. On a quelques fox et jack. On a un labrador de mémoire. Et puis on a deux staffies.
Et concernant les Rexpémo, pourquoi le berger belge malinois est la race la plus apte à...
Il fallait un chien qui soit assez haut parce que la recherche va s'effectuer aussi bien au niveau de la cheville qu'au niveau des épaules. Donc avec un springer, ça va quand même limiter la hauteur de recherche naturelle de l'animal, sans avoir à le porter. Vous faites de la recherche en bâtiment avec un chien de stup, si c'est un springer, si vous voulez rechercher au niveau du plafond, vous portez le chien. Bon, là, en Rexpémo, on peut pas se permettre de porter le chien, quoi. Donc c'est le gabarit qui est apparu le plus adapté. Après, dans ces gabarits-là, oui, on pourrait imaginer des bergers allemands. Après, les bergers allemands, c'est des chiens qu'on n'a pas tant que ça. On les a plutôt en piste qu'en recherche. Ça fait souvent des chiens de très gros gabarits qui ne sont pas obligatoirement adaptés à passer dans les milieux exigus, ou en tout cas moins facilement que des malinois.
Pourquoi Hagen ? Eh ben parce que c'est son nom quand il est né. Ça, c'est pas nous qui l'avons choisi. Il est arrivé avec ses papiers et donc sur son nom, c'est marqué Hagen. H-A-E-G-E-N. C'est presque comme Hagen Das. Voilà, vous voyez, c'est 34 kilos de câlins, de papouilles.
De muscles.
Vous avez vu. Ouais, c'est un super chien. Franchement, c'est un chien qui est vraiment bien sous tous les angles. Par contre, il est très excessif. Il a du jus. Il pourrait travailler jusqu'à en mourir pour moi, quoi. Vraiment. Si je l'arrête pas, si je le raisonne pas, lui continuera. Parce qu'en plus, il est complètement addict de son jeu. Vraiment. Le jeu. Il y a que ça. C'est un bébé.
Combien ça coûte un chien comme ça, vous savez
Alors, pour Gramma, il me semble qu'on ne dépasse pas les 2000 euros pour les achats des chiens. Après, il y a aussi des dons, des personnes qui n'arrivent plus à gérer les chiens et qui en font don à l'État, et donc à la gendarmerie. Et donc après ça, vous pouvez peut-être voir avec la cellule achat ou avec le colonel.
Eh bien, tu vas retourner... comment on appelle ça, un enclos?
C'est des courettes de... Non, c'est pas une cellule. Allez, tu retournes en cellule, Hagen. Ça le fait pas pour un chien gendarme. Mais par contre, non, c'est ses courettes de détente. C'est des petites courettes, ça évite de les avoir. Mais Hagen, c'est un petit...
Oui, pourquoi vous l'avez pas à la maison? Enfin, parfois, vous le prenez à la maison ou non, ce serait pas gérable?
Si, moi, je l'ai à la maison.
Si, si. Ouais, Aegon. Aegon, il a une belle vie. Si, si, Aegon.
Mais c'est très courant. Enfin, moi, je, tous les.
C'est compliqué. Il faut avoir les infrastructures. Hein. Moi, j'ai fait construire un chenil exprès dans mon jardin pour qu'il puisse avoir son petit chenil personnel. Mais après, c'est parce qu'Aegon, il est très très proche de moi. Et après, c'est pas un chien qui vit bien le chenil. Et ensuite, c'est vrai que moi, je veux le garder en pleine forme quand je le récupère. Donc si je le laisse en chenil, je le récupère, il a déjà perdu quelques kilos, il est très stressé, donc voilà, c'est mon binôme, hein. C'est mon binôme de travail. Hein, grosse patate. Oh, oui. Ce qui est bien avec les chiens, c'est que ça vous oblige à vous remettre en question dans vos tempéraments, parce qu'en fait, je suis comme lui, moi. Vous voyez, dans mon tempérament. Et en fait, ce qui est bien avec Aegon, c'est qu'il m'a obligée à modifier certaines de mes réactions ou mon tempérament, où j'ai été obligée d'apprendre à moi me poser pour que lui puisse en fait bénéficier de ça pour travailler, on va dire, dans le... Je vois que vous rigolez. Oui. pour que le travail soit bien, bien réalisé. Parce que là, ça fait deux boules de feu, quoi, si vous voulez. On est tous les deux explosifs. Donc Aegon, il m'a appris la maîtrise de soi, il m'a fait changer, comme quoi. Hein. Allez Aegon, viens. Allez, sage. C'est sage gros, hein. Oui, sage. Donc pour lui, aujourd'hui, c'est détente. Voilà.
Mais c'est quoi en principe une journée type de Aegon?
Ça dépend. Soit j'ai des missions, donc il part avec mon mission et on fait notre mission. Soit j'ai, par exemple, comme lundi, j'avais un exercice particulier sur une matière particulière. On a fait des tests, donc du coup, je bosse sur mon exercice. Soit j'ai fait faire un peu d'obéissance de temps en temps, parce que ça fait du bien aussi, pour le canaliser un petit peu. Et puis sinon, cette détente, on va se promener. Voilà.
Colonel Dallier, où est-ce que nous sommes ?
Alors ici, vous êtes au Jardin du Souvenir. C'est un jardin qui a été inauguré il y a quelques années, dans les années 2000, et où on enterre tous nos chiens, ceux qui ont été décorés ou ceux qui ont servi loyalement la gendarmerie pendant toute leur carrière. Et également, au fond de ce jardin, vous avez la stèle où a été enterré le chien gamin qui donne le nom à la caserne et qui est mort donc en 1962 à Gramma, mais qui s'est illustré en 1958 en Algérie en protégeant son maître qui avait été malheureusement tué par les félagas, mais qui l'a défendu jusqu'à l'arrivée des militaires qui sont venus délivrer et je dirais repousser l'attaque qui avait été faite. Voilà. Alors les chiens de gendarmerie sont des militaires, ils ont un matricule d'ailleurs qui leur est décerné. Et effectivement, comme leur maître, ils peuvent être décorés sur des opérations. C'est pour ça que ceux qui sont décorés ont des stèles individuelles. Après, on a un lieu commun où on enterre tous les autres chiens. Et ces chiens militaires, effectivement, quand on a des prises d'armes, ils sont décorés sur la place d'armes comme leur maître. Voilà. Et ils s'en rendent compte au même titre que leur maître, parce que généralement, ils ont beaucoup de prestance lorsqu'on les décore.
Donc les chiens ne sont ni des outils ni des armes, ici ce sont des militaires.
Ce sont des êtres vivants, et en tant que tels, ils sont traités au même titre que les militaires. Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
Et ici, vous pouvez nous décrire un peu comment ça se présente ? Il y a combien de chiens ? Avec quel nom ?
Alors, il y a Athos, il y a Altesse, Matt, Brahma, Bob, Patton, Ezo, Lord, Dingo, Tyson, Drax, Chad, Gina, Sanka, Junior.
Est-ce que c'est pas un peu excessif ce cérémonial, ce décorum pour des chiens ?
Moi, je vis au milieu des chiens depuis 3 ans. J'ai toujours eu des chiens aussi avec moi qui m'ont accompagné. Et je pense que J'en reviens souvent à la citation que disait Victor Hugo. « Regarde ton chien dans les yeux et tu ne pourras pas me dire qu'il n'a pas d'âme. » Et je crois que quelque part, si les maîtres de chiens sont aussi attachés à leurs animaux, c'est que quelque part, ils ont vécu des histoires hors du commun dans le cadre de leur métier et que pour eux, ils ne peuvent pas se séparer de leurs compagnons de 8, 9 ans ou 10 ans, voire 11 ans pour certains, comme ça, comme si c'était quelqu'un qu'ils n'ont pas fréquenté, quelqu'un qui ne soit pas comme un membre de leur famille.
En fait, je me suis jamais posé la question de savoir pourquoi travailler avec un chien. Je pense que quand on a une passion, les choses elles se font naturellement et on n'a pas besoin de pourquoi ou de comment pour en arriver là. Je sais que mon père était un passionné de chien parce qu'il aimait la chasse et j'ai toujours entendu parler de son créancement sur les chiens de chasse pour tel ou tel gibier. J'ai toujours
créancement,
entendu.
Créancement, ça veut dire ?
C'est-à-dire, créancement, c'est un mot qu'on utilise nous pour dire qu'on amène le chien à telle spécialité. Voilà, c'est un mot qui ça ne veut pas dire grand-chose, mais nous, on le comprend quand on parle entre sinos. Et par contre, oui, je pense que j'ai toujours écouté ces journées de chasse. Et je pense que la passion est arrivée à ce moment-là. Mais mon plus grand déclic, je pense, c'est que j'ai eu la chance d'être suppléante maître de chien dans les Alpes, en piste avalanche. Et j'ai eu aussi des interventions sur des stations de ski pour des avalanches, pour des personnes qui étaient ensevelies. Ouais. Donc oui, de là, je me suis dit, c'est ma voie.
Et vous disiez, c'est votre binôme. Qu'est-ce que ça vous ferait de perdre votre binôme ?
Bah, beaucoup de mal, beaucoup de tristesse. Après, on sait que c'est un risque qui peut avoir lieu. Maintenant, je ferai tout pour qu'il reste en sécurité et l'exposer le moins possible. Après, si sur une opération Rexpémo, il marque une personne qui est porteuse d'une ceinture d'explosifs, voilà, j'en connais l'issue, autant pour lui que pour moi.
L'issue, c'est quoi ?
Bah, la mort. Si la personne déclenche sa ceinture, je donne pas cher de sa vie ni de la mienne. On sera à proximité.
Toujours en sécurité, dans le sens où on met le chien d'un côté, on met la gamelle tranquillement, parce que vous voyez, là on manipule les croquettes devant eux et tout. Enfin, voilà, vu que c'est quand même des chiens de travail, ils ont des grosses dépenses énergétiques. Et voilà, le midi, ils ont envie de manger, donc là, ça permet de les mettre tous de l'autre côté, nous préparer tranquillement. Puis même, vous voyez, déjà, ça résonne énormément, alors que vous avez tous les chiens qui aboient parce qu'ils attendent la gamelle et à l'intérieur, voilà. Donc là, on fait comme ça. Et nous, ouais, les chiens, vous allez voir, ils viennent manger. C'est bon.
Ça y est, c'est l'heure de la pause repas après une dure matinée d'entraînement qui a commencé à 9h tapante sur une herbe gelée et sous un ciel brumeux. En tout, ils sont une demi-douzaine de binômes en formation.
Je suis Jérôme Deves, donc je suis dresseur au CNICG. Voilà, donc je suis formateur ici depuis plus de 20 ans.
Vous êtes pas, vous n'allez pas sur le terrain en opération ?
Voilà, je suis uniquement formateur. Donc je suis dresseur instructeur et ouvrier d'État.
D'accord, donc vous êtes, oui c'est ça, vous n'êtes pas militaire.
Je suis affecté en permanence ici au CNICG pour la formation.
Donc c'est vous qui avez inventé la technique Rexpémo ?
Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, l'expérimentation a commencé en 2014, donc avant les événements.
Donc, les attentats.
Voilà. On a commencé donc avec deux chiens, donc un chien qui à l'époque avait 4 ans, et un jeune chien d'un an, un chien vierge.
Comment vous avez mis au point le processus ? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait comme test ?
Mais au départ, on s'est appuyé pareil sur la même méthodologie qu'on utilise en stupéfiant. La particularité, après, c'est de faire comprendre au chien comment il peut marquer une personne qui est mobile.
Et comment on lui fait comprendre ça, justement
Bah, c'est compliqué à expliquer un petit peu, mais voilà, tout le travail est basé sur le jeu. Quoi. Le chien, en fait, il doit associer une personne qui est chargée, porteuse, en fait, c'est un compagnon de jeu. Ça peut paraître bizarre, mais tout est basé là-dessus.
Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec les six jeunes gens qui sont là?
Les six nouvelles équipes là, qui sont en formation. Depuis là, ils sont leur troisième semaine de formation. Donc deux semaines de travail. Donc là, c'est vraiment les prémices. Hein. Il faut faire comprendre au chien. Donc le chien doit lui faire associer l'odeur des explosifs à son jouet. On va charger une personne hein, qui va jouer le rôle du kamikaze, hein, donc le plastron. Et au début, on va associer le jouet donc, à cette fameuse matière. En fait, le chien, il travaille pas, il joue. Voilà, il cherche un partenaire de jeu avec qui il va pouvoir jouer.
Est-ce qu'il a conscience du danger,
le chien? Le chien, non, du tout, nullement.
Eh ben, on va aller les voir, vos recrues.
Vous venez les... Si... Allez, tu viens aussi? Ah, c'est au milieu du terrain avec le plastron positif là. Allez, venez. Ah, c'est du sperce comme hier. En rôle. Donc pareil, comme pense à ce qu'on a dit, essayez de rester naturel. Hein, décontracté, on parle, et pas figé, on n'est pas au garde à vous. Hein.
Qu'est-ce que vous faites là?
Ben, on les dispose, on va faire un exercice. De façon à ce que le chien, voilà, on a chargé le positif, le vent favorable, de façon à ce que le vent amène les odeurs sur le chien.
Donc là, sur toutes les personnes qui sont là, il y a une personne, le
positive,
plastron.
Celui qui est habillé en gris, là, voilà. Qui a une matière, il y a de l'explosif à l'intérieur, là, du Semtex, 500 grammes de Semtex.
Donc, voilà. Et le but, c'est que le...
Le but, c'est que quelqu'un va faire une excitation, justement, avec le fameux jouet du chien, il va mimer comme s'il avait le jouet. Il va se mettre dans le cercle. Là, après, on va mettre le chien derrière la tente. Là. On va le ressortir, on va le mettre en œuvre. Comme s'il associe, qu'en fait, c'est la personne qui est chargée, qui a ce jouet.
D'accord. Donc là, le but, voilà, c'est d'associer l'odeur au jouet.
Enfin, voilà, c'est ça. Ouais. Il va servir son nez pour remonter et détecter la personne, justement, porteuse d'explosifs. Allez, c'est bon?
C'est vous qui récompensez?
Oui, parfait, c'est vous qui récompensez.
D'accord.
Qui c'est qui fait l'excite dans les jeunes? Allez, un volontaire.
Allez, même qu'hier, mais...
Attends, hein?
Ouais, bah je vais le faire, oui.
Ouais, ouais. Tu le fais. C'est Stéphane. Donc tu vas chercher un petit peu le chien, là. Hein, tu vas l'exciter, tu mimes comme si tu avais le boudin, ouais. Tu te remets en place. Disparition du chien derrière la tente, là, non visuel. Tu te décales un petit peu, et après il met en œuvre. Hein. C'est bon? Allez, c'est parti.
Avec le chien.
On va parler de tout le monde derrière, personne sur le terrain. Hein.
Allez, c'est parti. Écartez-vous un peu. Allez, on
va. India s'élance. On se croirait sur une aire de jeu pour enfants. Un rectangle de pelouse encadré par des gradins, ça et là des portiques, des toboggans et une dizaine de suppléants recrutés pour jouer les cobayes. India fonce droit vers eux, passe de l'un à l'autre, poursuit sa course effrénée, la truffe aux aguets.
Bon là, ça marche pas du tout.
Non, ça marche pas du tout parce que la particularité de cette chaîne, c'est qu'elle c'est une chaîne qui a 5 ans. Et jusqu'à maintenant, elle a fait que de la recherche traditionnelle. C'est-à-dire en bâtiment ou sur véhicule, elle a toujours fait abstraction des personnes. Jusqu'à maintenant, pour elle, il n'y avait jamais de matière explosive sur les personnes. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué donc, pour elle, pour arriver à lui faire comprendre.
Ah, là, elle a compris.
Là, ça y est, elle a détecté, mais là, il a fallu le temps. Elle est perturbée, en fait, par l'environnement voilà, extérieur.
Ça y est, India a trouvé. Elle marque en s'asseyant face au cobaye chargé. Derrière lui, le maître s'approche tout doucement et jette le boudin par-dessus son épaule. Le chien le chope au vol. Bingo, c'est sa récompense.
C'est bon.
India, porte.
Parti.
India.
Après, il faut des chiens ouais, avec des qualités pour faire ça bien spécifique hein, sur la sélection. Hein. Déjà, il faut des chiens très équilibrés, très sociables, pas du tout d'agressivité envers les personnes. Hein. Parce que bon, quand ils font des missions, eh bien, on peut avoir de tout comme réaction. Hein. Les personnes peuvent très bien venir pour caresser le chien, faire avoir des mouvements de recul par crainte. Donc il ne faut pas que le chien se déclenche pour éventuellement agresser, hein, dans les mordre. Donc il faut qu'ils soient très dynamiques. Parce que bon, il y a beaucoup de contraintes et le chien doit rester à la scie et sans bouger tout en travaillant. Hein. Et donc si un chien un peu mou, ben, il aura tendance à pire à s'endormir et se désintéresser. Donc il faut qu'il soit très dynamique.
Il faut éviter d'avoir droopy quoi.
Ouais voilà, c'est ça, ouais. De préférence du gabarit. Bon alors ?
Elle est bien là.
Ouais, bien, ouais. On peut dire ça comme ça. Au pied, ça fait quoi si tu le rappelles au pied là ? Allez, monte un peu le tol.
Au pied.
On peut y passer la journée.
Au pied. Oh, il dit au pied.
T'as l'autre boudin, quelqu'un en boudin ou quoi?
Chup. Au pied, dépêche-toi.
Bon, il y a un gros travail d'obéissance à faire, hein. Là-dessus, à travailler.
Il dit au pied. Au pied, là.
Le chien qui est très possessif à l'objet, voilà. Et après, il faut l'ascendance du maître pour que, alors, qu'il revienne. Quoi. Il va falloir qu'on règle ça.
Ok, dépêche-toi. Ok, alors.
David Castanard, ouais, matricule 513 à 411. Ça fait bientôt 21 ans que je suis gendarme et ça fait pas tout à fait 2 ans que je suis arrivé ici. Donc voilà, j'ai plusieurs technicités, mais ma spécialité, on va parler surtout de l'explosif. Donc je suis surtout instructeur en recherche d'explosifs. Un RexPMO, et après, hein, bien sûr, tout ce qui touche les chaînes de recherche.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Au bout de combien de temps on devient instructeur, comme vous?
Alors, mon parcours, j'ai commencé en gendarmerie en tant que gendarme mobile, à peu près 9 ans. Ensuite, je suis parti à une unité de terrain, comme gendarme dans un PSIG. J'ai répondu à un appel à la volontaire pour être maître de chien. Je suis venu à Gramma, j'ai été testé, j'ai été formé en recherche d'explosifs. Et après, je suis parti sur l'aéroport d'Orly, où j'ai travaillé environ 7 ans. Voilà. Et là, j'ai répondu à un appel volontaire également, pour venir être testé pour être instructeur à Gramma, où j'ai réussi, et me voilà là, depuis 2 ans. Voilà.
Alors, comment ça marche? Voilà, comment on forme un chien à détecter de l'explosif?
Un chien, il faut lui apprendre à chercher sur les gens, d'accord? C'est pas inné. Donc ben là, cette technicité, elle est vraiment spécifique à ça. On apprend au chien à détecter de la matière explosive, mais portée par un être humain. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a du mouvement, parce que c'est sur un être humain, parce que ça peut être un milieu de deux foules. Des fois, on peut imaginer une rencontre sur un stade de foot, on peut imaginer, comme là, dans les bureaux d'élection, c'est que vous allez avoir des files d'attente, des groupements de personnes. Ça peut être, pour un match de foot, ça peut être 500, 600, 700 personnes d'un coup qui arrivent. Ben, pour le chien, cibler une personne dans tout ça, c'est quand même pas facile. Il y a du bruit, il y a des mouvements, les gens ne voient pas spécialement le chien. Il peut avoir des coups, il peut avoir des peurs, il peut avoir plein de choses. Donc voilà, il faut habituer le chien à tout ça. C'est compliqué pour le chien, c'est beaucoup de responsabilités pour le maître. Mettre une personne à l'écart, peut-être un joug si la procédure le prévoit, qui est censé avoir de produits explosifs dessus. Si le chien se trompe, c'est beaucoup de crainte et beaucoup d'inquiétude pour tout le monde. Une soirée de stade avec d'entrée de personne autre, le chien fait 5, 6, 7 faux marquages, vous êtes plus crédible et puis voilà, les gens, au bout d'un moment, ça va pas le faire. Quoi. Donc voilà, tout ça, il faut l'éviter. En faisant ce genre de travail, si un jour ça arrive, si un jour il y a un marquage et tout, on va empêcher forcément qu'il y ait une explosion, on va empêcher celui-là, mais on n'est pas à l'abri qu'il y aura une explosion. Donc si le chien explose, on a de grandes chances d'exploser avec. Hein. Parce que la distance entre l'animal et le maître, elle n'est pas très longue. Donc voilà, quelqu'un qui porte un kilo d'explosif sur lui, c'est pas en étant à 20 mètres que vous serez sauvé. Donc voilà. Forcément, on est lié au chien. C'est lui qui nous prévient s'il y a un danger, et c'est lui qui nous dit si on doit se mettre à l'abri aussi, et c'est lui qui nous prévient de tout. Donc oui, on est attaché au chien, vaut mieux.
Et qu'est-ce qu'il a dit remplaçable? Un chien au service de l'État. Qu'est-ce qu'il peut faire que rien d'autre ne pourra jamais remplacer?
Qu'une machine, par exemple, ne pourra pas remplacer, eh bien, l'initiative du chien, d'accord? La détection de l'odeur, voilà, le fait de pouvoir se dépasser partout, l'initiative, parce qu'il va sentir un petit quelque chose qui lui aura fait une petite étincelle dans son cerveau. Le chien va se dépasser, va suivre, va aller vérifier, il va voir si c'est bon, si c'est pas bon, il reviendra à sa place, il recommencera son travail, ce qu'on ne peut pas faire avec une machine, on ne pourra pas la déplacer, et nous, ce petit truc, on ne l'aura pas. Voilà, le chien, il est vraiment... c'est vraiment... une aide à part entière, quoi. Sans ça, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait, c'est sûr.
Oui.
Non,
travail.
Un nouveau duo entre en piste. Le chien semble nerveux. Il a du mal à identifier la cible. Il marque, enfin. Il attend, fébrile, sa récompense. Et soudain...
Putain, alors fais chier, quoi.
L'animal mord haleine l'homme au plastron chargé qui tombe à genoux.
C'est pas que c'est des chiens méchants, c'est qu'ils sont tellement excessifs que
dans le jeu,
en fait, ils veulent tellement leur jouer que si on leur dit bien, ils disent non, moi je veux mon jouet. Donc c'est des chiens comme ça qu'on veut, mais ouais. Après il faut pouvoir.
Non mais ça arrive aussi. Hein,
pouvoir
j'en ai,
doser.
J'en ai pris un, mais ça arrive. Mais voyez, mais dans le jeu en fait, le chien il vient pour reprendre son boudin et puis il y a le croc. Le croc qui passe à côté, mais lui il est content de jouer. Donc c'est pas des chiens qui ont un fond méchant en fait. C'est juste que les chiens ils ont tellement envie de jouer, de travailler en fait que.
C'est pas une science exacte.
Bah, de toute façon, on travaille avec du vivant, donc il y a des choses qu'on peut pas prédire, il y a des choses qu'on peut pas. Voilà.
Ça va ?
Ouais, ça va. Juste la peau qui est un petit peu. Mais après, c'est les aléas et les risques du métier, sachant que le risque zéro, bon, il n'existe pas. Ça restera, mais voilà, ça existe.
Et est-ce que là, je vous ai vu réagir, vous lui avez donné un coup sur le museau, mais est-ce que c'est parti tout seul ou c'était nécessaire pour faire comprendre au chien que c'était une bêtise?
Il faut faire comprendre au chien que c'est une bêtise. Et c'est moi qui suis intervenu parce que bon, c'est le chien. Et le mariage a été fait depuis 2 semaines. Et il n'est pas encore complètement donné au nouveau même de chien. Donc dans ce type de situation, je préfère moi intervenir de suite.
C'est vous l'autorité encore?
Oui, encore un petit peu. Ouais.
L'entraînement qui est particulier sur ces chiens de recherche d'explosifs sur personne en mouvement, c'est qu'à aucun moment le chien ne doit toucher la personne. On a affaire à un explosif de type TATP, triacétate triperoxyde. C'est ce qu'on appelle nous un explosif primaire, c'est-à-dire quelque chose d'excessivement instable qui peut exploser pour un oui, pour un non, ne serait-ce que des fois un choc, une chute, n'importe quoi, voire une étincelle. Donc c'est vraiment quelque chose de très instable. Donc l'objectif du chien, c'est de détecter cet explosif, de marquer la personne et de la suivre de façon à ce qu'elle indique bien au groupe qui va être encadrant, qui va être chargé éventuellement de la neutralisation ou au moins de l'interception de l'individu, et un autre groupe qui va être chargé de la protection des personnes qui sont autour, de pouvoir le faire dans de très bonnes conditions.
Alors moi je suis arrivé déjà en fait avec ma chienne donc India que vous avez vu tout à l'heure. Des tours de... donc qui est déjà formé en ce qu'on va dire en recherche de produits explosifs traditionnels, c'est-à-dire on avait déjà la technicité depuis 2014. Donc on a été sollicité pour venir au stage donc de recherche d'explosifs en personne en mouvement. Moi j'étais volontaire parce que déjà la chienne me présentait des aptitudes, je pense, pour recevoir cette formation, parce qu'il faut voir que c'est quand même déjà, la recherche d'explosifs, c'est quand même assez technique. Et là, on rajoute encore des choses assez contraignantes sur les chiens. Là, on est quand même sur un flux de personnes qu'on peut, nous, pas, entre guillemets, trop contrôler. Donc, les gens sont en train de manger. Les gens, ils ont eu des chiens chez eux. Et nous, notre chien, au milieu de tout ça, il doit faire son inventaire d'odeurs. Il doit trouver les molécules qui l'intéressent, les molécules qui l'intéressent, on va dire, mais qui ne sont pas de l'explosif. Donc le chien, il doit être assez fort dans sa tête pour dire ah, ça m'intéresse, mais non, j'y vais pas. Enfin, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que mon papa il veut. C'est mon papa, ce qu'il veut, c'est les molécules explosives, quoi. Et il doit prendre sa décision vraiment en très peu de temps. C'est-à-dire que il doit décider que hop là, ça sent. Et là, il faut que j'aille, il faut que je retrouve la bonne personne. Et là, après, dans ce flux de personnes, il faut qu'il remonte jusqu'à la bonne personne pour nous dire regarde, c'est cette personne-là qui sent. Pour qu'après nous on puisse intervenir dans de bonnes conditions. Donc c'est vrai que c'est. Pour le chien, c'est un travail énorme en fait. Quoi.
Gringo, c'est un couteau suisse.
Oui.
Il sait tout faire, qu'est-ce qu'il a comme
beaucoup
comme
de choses, ouais, il sert à faire l'illustration, il fait
du mordant de démonstration, il fait de l'obéissance, il y a une obéissance très démonstrative. Ensuite, il a fait aussi un petit peu d'avalanche. Il est en recherche d'explosifs traditionnels et expérimentaux.
C'est avec Gringo, en fait, on vous a dit, créez-nous, inventez-nous de toutes pièces la technicité Rexpemo, et c'est avec lui que...
Voilà, que tout est parti. Bon, déjà, bon, comme je dis, on a déjà des acquis quand même, parce que bon, avec les chaînes stupéfiantes, on fait déjà la recherche sur personne, donc c'est appuyé de cette méthode.
Donc là, vous avez le harnais en main, et qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce que vous allez nous montrer?
Mais là, je vais le conditionner, je vais aller chercher le chien, le prendre en laisse, le conditionner, lui mettre le harnais, et après, on va aller se mettre en place, à l'endroit où on va filtrer donc, les personnes.
Et dès qu'on lui met le harnais, ça y est, le chien il est au travail,
il est conditionné, il arrête de jouer, sait qu'il arrête de jouer, et là, il va se mettre en mode travail. Au pied. On va se positionner ici. Hein. On va profiter d'un système, on va faire un système d'entonnoir, de façon à ce que tous les gens passent devant le dispositif, devant le chien. Hein.
Un peu comme si c'était passé pendant l'Euro 2016. Ou...
Voilà, c'est ça. On organise des points de filtrage. Au pied, attends, s'il vous plaît. Ils vont passer là, les gens. Ouais. C'est bon.
Okay, c'est passé entre les gens.
Voilà. Là, vous allez voir, personne. Le chien va renifler toutes les personnes au fur et à mesure qu'ils vont passer. Hein.
Donc là, les personnes rentrent.
Voilà.
Devant. Le chien, il est en éveil.
Ouais. Personne, hein. Il est bien. Là, voilà, il faut les chiens vraiment sociables, hein, parce que vous voyez, ils passent vraiment au contact. Les gens peuvent les caresser, hein. Ça peut arriver.
Bonjour.
Bonjour.
Allez, bon,
ouais, il peut avoir
bon,
un mouvement de recul.
Salut le chien.
Bon, malgré ça, il faut que le chien reste concentré et qu'il reste au travail. Hein.
Et vous redites régulièrement personne?
Oui, de temps en temps pour le reconditionner. Mais bon, hein.
Il n'oublie pas que voilà, le jouet il est sur une personne.
Ben.
Oui.
Après, on peut faire des séquences de travail comme ça pendant 20, une demi-heure. Hein. Après, ça dépend des conditions, ça dépend du flux de personnes.
Hein.
Allez, on ralentit un peu, ça bouchonne. Hop.
Déjà, le fait d'utiliser ces chiens-là, c'est un aspect dissuasif. Parce que bien évidemment, le terroriste, quel est son objectif? C'est de faire le maximum de mal. Or déjà, si on peut mettre en place ce type d'unité, eh bien, il hésitera à intervenir. Donc il y a un aspect préventif qui lui est véritablement déjà protecteur. Ça, c'est vraiment important. Après, effectivement, il y a le domaine de l'intervention. Et là, ce domaine de l'intervention, l'objectif, ce sera de faire en sorte de créer un périmètre de sécurité, le plus important possible, de façon à isoler les personnes de l'individu. Après, l'individu, effectivement, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est comment il va réagir au moment de l'intervention des équipes. Ça, c'est un événement qu'on n'a pas eu à vivre jusqu'à maintenant.
Attention, il y a un chien.
Allez, avancez là-haut, j'ai mon concert, moi, dépêchez-vous.
Il y a une mission, là.
Allez, on y va.
C'est côté, hein. Oh, il est tout seul. Personne.
Allez-y, doucement. Personne.
Et là, il doit faire le tri entre toutes les odeurs. Là, c'est voilà, les personnes qui se présentent.
Ouais. Bon, c'est vrai que le chien a une grosse faculté de discrimination. Hein.
C'est-à-dire?
Il a l'odorat déjà 44 fois plus développé que le nôtre. Il est capable de discriminer une odeur parmi beaucoup d'autres. Quoi. Ouais.
Ah, là, ça y est, il a repéré.
Non, après là, oui, il a été sur le lire. Gringo, au pied. Au pied. Personne. Non, personne. Personne. Le chien, en fait, là, ça arrive que des fois il décroche, il y a une odeur qui va l'interpeller, là, il a besoin de suivre pour aller se confirmer, se relire.
Moi, j'ai peur des chiens.
Allez-y, monsieur, vous serez.
Allez-y.
Bien, bah écoutez, je suis l'adjudant chef Junio, affecté au groupe national d'investigation cynophile depuis 3 ans, et je seconde le commandant d'unité.
Donc, vous avez été sur le terrain pendant l'Euro 2016, qui est le gros événement où les Rexpemo ont été lancés en situation pour la première fois. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé?
Oui, tout à fait. J'étais donc sur le terrain sur Toulouse, déjà, dans un premier temps, avec un dispositif de 5 chiens. Et nous avions pour mission de sécuriser tout ce qui était fan zone et entrée de stade pour des matchs à haut risque. Et ce qui nous a impressionné, je pense, tous, c'est l'effet de masse. L'effet de masse qu'il y a eu, les spectateurs qui venaient sur la fan zone. Je ne sais pas si vous imaginez filtrer 30 000, 40 000 personnes rentrant soit dans un stade ou dans une fan zone. C'est relativement conséquent. Et de faire le travail convenablement, il y a eu pas mal de, comment dirais-je, de d'interrogations, à savoir si on faisait correctement notre travail, si le chien checkait toutes les personnes rentrantes.
Tu dis au positif de venir là ? T'as entendu Stéphane ?
Ouais.
On a débriefé sur la mission et on a mis en place quelques exercices à l'intérieur du dispositif pour nous rassurer. Ça rassure à la fois le maître chien et le chien, lui, garde sa motivation dans le travail. Donc un exercice, l'exercice c'est un plastron, ce qu'on appelle un plastron, avec une matière inerte ressemblante, c'est un simulateur d'explosifs, quoi, donc avec l'odeur. Tout à fait inerte, on la fait passer dans la foule avec les gens, le chien marque, ça rassure le maître chien, on voit que le chien marque, ça marche, et ça motive davantage le chien et ça le garde en haleine. Quoi. Voilà.
Bingo là, toujours au taquet.
Tac, et voilà, il a détecté la personne.
Ça y est, il est parti, il est en train de suivre.
Là, vous pouvez suivre, ça vous permet de voir. Non, là, il a ciblé, hein. Donc là, on est capable d'identifier la personne porteuse.
Et si la personne s'enfuit en courant ?
Ouais, elle peut courir, hein, n'y a pas de souci. Hein. Essaye de courir un peu, change de mouvement, voilà. Reviens en arrière, reviens vers nous, là. Fais demi-tour.
Donc là, Gringo, il est...
Là-bas.
Il est devant, il bouge pas, il suit la mule.
Non, en réalité, si le chien marque comme ça, le maître de chien ne va pas remonter, donc il va rappeler à distance pour récompenser. Sachant qu'à l'entraînement, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est toujours le maître de chien qui monte, récompense. De la finalité, pour éviter de s'exposer, je vais rappeler, hein, à l'aide d'un sifflet. Comme ça, le chien va décrocher et venir se récompenser tout seul.
Et il a chopé le jouet au vol.
Gringo. Oui, bien. Allez, jouez. Rappelez-le pour jouer.
Voilà. En fait, vous avez rappelé le chien et pendant ce temps, bah, il y a des personnes qui interpellent
voilà,
la mule.
Voilà, neutralise la personne qui la fixe. Hein. Il l'interroge. Bon, pour ça, c'est le côté opérationnel.
L'ennemi du chien en Rexpémo, je dirais, c'est la... Il faut garder la motivation et c'est peut-être la lassitude. Si on arrive à enchaîner 3-4 matchs dans la journée, le chien, au bout du troisième match, commence à être lassé, quoi. Parce qu'à force de voir des gens passer devant son museau, au bout d'un moment, c'est long. C'est long et il faut garder cette motivation. Donc on essaye de restreindre la partie travail et d'avoir une récupération un peu plus importante. En fin de journée, je vous avouerai que les chiens en ont ras-le-bol, quoi. C'est clair et net.
En fait, l'idée à l'avenir, colonel Dallier, c'est que tous les gros événements soient sécurisés par les chiens Rexpémo.
Oui, puisque on est intervenu déjà sur plusieurs grandes manifestations. Il y a eu l'Euro, bien sûr. Il y a eu Handball 2017. On est intervenu à Orly dernièrement. On le fait sur d'autres grands rassemblements. On est impliqué sur d'autres événements. Je vous passe certaines précisions, hein, mais effectivement, oui, de plus en plus, on va être engagé. Et je pense que ces chiens-là ont tout à fait leur place en termes de prévention et de dissuasion, justement pour sécuriser au maximum tous ces grands rassemblements où les gens doivent pouvoir continuer à vivre normalement, y assister et se sentir également protégés.
C'était Chien au service de l'État. avec le commandant Dulieu, vétérinaire, le colonel Dallier, le maréchal des logis-chefs Plutino, Jérôme Devez, formateur, le gendarme-instructeur Castanard, l'adjudant-chef Junio. Et les chiens, Lucky, Hagen, India et Gringo. Coordination Christine Bernard, un documentaire d'Olivia Cohen et François Test.
La semaine prochaine, l'heure du documentaire vous propose une semaine sur les forêts.